Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu passer dans votre fil d'actualité cette drôle d'histoire. À Sarcelles, dans le Val d'Oise, l'élection du conseil municipal a été invalidée par la justice pour cause d'absence de parité. Alors si on lit le truc un peu rapidement, on peut se dire que ce n'est pas un mal, que la parité c'est important, que cette règle elle est là pour un but tout à fait positif, pour assurer une meilleure représentativité des femmes dans un secteur, la politique, qui en manque cruellement. Sauf qu'en réalité, à Sarcelles, le problème c'est qu'il y a trop de femmes, 8 exactement contre 6 hommes dans le conseil, alors que la loi stipule qu'il ne faut pas plus d'un élu d'écart entre les deux sexes. Une lecture bien particulière donc de cette disposition légale qui nous a donné envie de nous replonger dans son histoire et ses ressorts particuliers, de faire un petit bilan de l'état de la parité dans notre système politique et de voir le chemin qu'il reste à parcourir pour s'approcher enfin de l'égalité. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Avant toute chose, un petit point historique. La parité en France, c'est régi par la loi. C'est même une disposition constitutionnelle. C'est dans l'article 1er de la Constitution où il est écrit
« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »
Cette inscription dans la Constitution, elle est donc accompagnée de textes de loi. Il y en a eu 3 depuis le début des années 2000, tous visant à encadrer l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats publics. Si son efficacité est remise en cause pour les élections nationales, on y reviendra d'ailleurs, pour l'échelon local, c'est indéniable utile, puisqu'en 99, avant la loi, on comptait 78% d'hommes dans les conseils municipaux des villes de plus de 1000 habitants, et qu'aujourd'hui on est redescendu à 52%. Mais il y a encore du boulot, l'exemple de Sarcelles est assez parlant en ce sens, et je suis donc allé en causer avec quelqu'un qui traite de ces dossiers au quotidien. Claire Guiraud, c'est la secrétaire générale du HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, une instance consultative indépendante rattachée au Premier ministre, et qui scrute de près les évolutions des inégalités entre les sexes. Je lui ai demandé quel regard elle portait sur le cas particulier de Sarcelles.
C'est une forme de stratégie de contournement, comme on en voit dans d'autres espaces politiques. On peut penser à l'Assemblée nationale, par exemple, et aux élections législatives. Donc les partis politiques ont l'obligation de présenter autant de femmes que d'hommes parmi les candidatures. Et s'ils ne le font pas, ils ont une retenue sur leur dotation publique. Et on voit bien que certains partis préfèrent payer plusieurs millions d'euros chaque année plutôt que de présenter des femmes. Les montants sont quand même assez énormes. Par exemple, pour les Républicains, en 2017, les Républicains, ils ont renoncé à 3,5 millions d'euros, c'est-à-dire plus d'un tiers de la dotation qu'ils devaient percevoir initialement. Parti socialiste, ils ont renoncé à 1,2 million d'euros, c'est 10% de leur dotation. Donc on voit qu'ils sont prêts à faire un certain nombre de sacrifices pour éviter d'avoir autant de femmes que d'hommes candidates. Et puis une autre stratégie de contournement pour les législatives, c'est le fait de mettre les femmes sur les circonscriptions qu'ils savent non gagnables d'avance. Et c'est ça qui explique que malgré les lois de parité, aujourd'hui, même si ça a progressé, on n'est encore pas à 50-50 et on a 38% de femmes à l'Assemblée nationale. On le voit aussi avec les élections sénatoriales. Il y a un certain nombre de dispositifs. Donc, il y a une obligation de présenter des listes paritaires avec alternance qui devrait permettre de progresser concernant la place des femmes. Et une stratégie pour éviter d'avoir trop de femmes au Sénat, c'est de présenter des listes dissidentes pour du coup s'assurer d'être tête de liste et d'avoir plus de chances d'être élue plutôt que si on est en troisième ou en cinquième position. Donc voilà, il y a des résistances qui sont encore assez fortes à l'égalité, des lois qui continuent d'être contournées avec des stratégies de contournement. Et puis on voit aussi avec cette histoire avec ce recours à Sarcelles, en fait, c'est que la loi peut ne pas être appliquée. C'est-à-dire que là, il y a eu une élection des adjointes et des adjoints qui s'est passée. Et s'il n'y avait pas eu de recours, cette situation déséquilibrée entre le nombre de femmes et d'hommes aurait pu continuer et perdurer. Et on peut imaginer que c'est le cas dans d'autres communes. Il y a des militantes qui ont fait ce travail-là d'analyser les données du ministère de l'Intérieur et les chiffres qu'elles ont rendus publics sont assez étonnants. Elles ont constaté que dans 1197 communes, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes adjoints était supérieur à 1. Donc on était dans des situations qui n'étaient pas conformes, pas tout à fait conformes à la loi. Même s'il y a un détail important avec cette loi, c'est qu'elle doit s'appliquer au moment de l'élection, mais elle s'applique pas nécessairement sur la durée. Donc avec ces chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est vrai qu'on ne peut pas, non plus dire de but en blanc qu'il y a 1197 communes qui sont en situation d'illégalité. Il faudrait regarder ça d'un petit peu plus près. Mais malgré tout, on peut imaginer que peut-être il y a d'autres Sarcelles dans ces 1197 communes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde de plus près en faveur de quel sexe est-ce que ces déséquilibres se fait. En fait, dans 78% des cas, c'est des communes dans lesquelles il y a plus d'adjoints que d'adjointes. Donc en fait, Sarcelles, a priori, c'est quand même plutôt une situation minoritaire. Donc voilà, c'est la preuve, tout ça, qu'il y a besoin encore de progresser. Il y a besoin, finalement, de davantage de contraintes, davantage de contrôle, davantage de suivi pour que le partage du pouvoir soit une vraie réalité en France, parce que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Justement, on parle de contrôle et de potentielles contraintes. Ça passe par la loi, j'imagine. Quels outils législatifs on peut imaginer pour renforcer, justement, ce qui a été décidé au début des années 2000?
Alors, nous, tous les travaux qu'on a conduits au Conseil ont mené à une même conclusion. Quand il y a des lois, quand il y a des contraintes, il y a de la parité, ou à peu près. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de parité, on en est très très loin. Donc on a, dans tous les travaux, après chaque élection, on analyse la situation des femmes et des hommes à la suite de ces élections dans les espaces politiques. On plaide pour davantage de lois, davantage de contraintes pour arriver à la parité. Alors, la première réponse par rapport à cette situation de Sarcelles, déjà, c'est le contrôle de la loi, parce qu'en vrai, là, la loi, elle est correcte, elle est bien, elle est claire et explicite sur le fait que la règle, c'est l'égalité, mais elle n'est pas toujours appliquée. Donc, le premier progrès, c'est appliquer la loi et contrôler l'application de la loi. Ensuite, pour les communes de plus de 1000 habitants, il y a tout un tas de dispositifs qu'on pourrait mettre en place pour assurer un réel partage du pouvoir. Le premier, c'est que déjà, cette règle du nombre égal de femmes et d'hommes parmi les adjoints, elle devrait s'appliquer tout au long de leur mandat et pas seulement au moment de l'élection, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des stratégies de contournement avec des listes qui sont présentées avec un nombre égal de femmes et d'hommes et qu'ensuite, il y a des adjointes qui démissionnent au profit d'adjoints. Donc il faudrait que cette règle s'applique tout au long du mandat, et c'est-à-dire qu'on impose le fait que quand il y a des remplacements, l'élu qui remplace est du même sexe que l'élu qui est remplacé. Il y a autre chose sur les communes de plus de 1000 habitants qui pourrait permettre de progresser. Au-delà, en fait, aujourd'hui, dans les communes de plus de 1000 habitants, parmi les adjoints, on a théoriquement l'égalité au sens quantitatif, c'est-à-dire qu'on a 50%, 50%. Mais il y a une hiérarchie parmi les adjoints, et aujourd'hui, il n'y a pas de règle qui concerne cette hiérarchie. Donc vous pouvez tout à fait avoir dans un conseil municipal les 4 premiers adjoints, par exemple, qui sont des hommes, et puis les 4 suivantes qui sont des femmes. Il y a encore une représentation assez stéréotypée entre les femmes et les hommes sur les délégations, c'est-à-dire, pour le dire vite, en gros, aux hommes, on va leur confier les délégations qui, hiérarchiquement ou symboliquement ou financièrement, semblent les plus importantes. Typiquement, ça va être les finances ou les plus techniques aussi, donc l'urbanisme, les transports. Et aux femmes, on va plutôt leur confier des délégations dont on a le sentiment qu'elles correspondent mieux à leur qualité. Qui seraient intrinsèques, telles que la petite enfance, la famille, l'éducation. Il faudrait en fait prévoir que les élections se fassent avec des listes par alternance, donc femme-homme-femme-homme ou homme-femme-homme-femme, de telle sorte que le pouvoir soit mieux partagé. Et pas que les délégations les plus puissantes, hiérarchiquement ou financièrement en termes de budget derrière, se soient davantage équilibrées. Et alors nous, on va aussi plus loin et on propose, donc que ce soit pour les communes de plus de 1000 habitants ou pour l'ensemble des collectivités, qu'on passe à un système qu'on appelle de tandem paritaire, c'est-à-dire que toutes les collectivités aient à leur tête une tête d'exécutif, donc un maire ou une maire, un président ou présidente de région ou département, qui soit de l'autre sexe que son premier adjointe ou sa première ou son premier vice-président. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a élu le maire, eh bien, la tête de liste des adjoints doit être du sexe, de l'autre sexe que celui du maire. Et donc ça nous permettrait en fait d'avoir des postes de numéro 1 et de numéro 2 dans toutes les collectivités qui soient équilibrées avec systématiquement une femme et un homme. Au-delà des communes de plus de 1000 habitants, parce qu'aujourd'hui encore, il y a un certain nombre de dispositifs paritaires, mais il y a d'autres communes pour lesquelles il n'y a absolument aucun dispositif paritaire, c'est les communes de moins de 1000 habitants. Alors, ce seuil a baissé il y a quelques années et on était à 3500, on est descendu à moins 1000. Donc là, il n'y a aucune règle paritaire. Et donc, comme on le constate souvent, quand il n'y a pas de règle paritaire, il n'y a pas de parité. Et effectivement, il y a 38,5% seulement de conseillères dans les conseils. Donc, à peine plus d'un tiers. Donc, deux tiers restent des hommes. Et il y a encore des conseils dans des communes de moins de 1000 habitants qui sont composés à 100% d'hommes, qui sont exclusivement masculins. Donc nous, on appelle au fait d'étendre les règles paritaires, les dispositifs paritaires qui existent pour les communes de plus de 1000 habitants aux communes de moins de 1000 habitants. Et il y a une vraie urgence en fait à faire cette réforme sur les communes de moins de 1000 habitants, et en particulier parce que dans un peu moins d'un an, il y aura des élections municipales et des élections communautaires. Et donc il y a vraiment là une fenêtre de tir pour changer la loi et pour améliorer la situation dès l'année prochaine. Et c'est important, bien sûr, pour les communes de moins de 1000 habitants, mais aussi, du coup, par conséquence, pour les intercommunalités, puisque les intercommunalités, elles sont composées de représentants des communes qui composent l'intercommunalité. Et bien souvent, c'est le numéro 1 ou le numéro 2 de la commune qui est envoyé à l'intercommunalité. Et comme il y a aujourd'hui très majoritairement des hommes parmi les maires, les premiers adjoints, on se retrouve avec des intercommunalités qui sont très masculines. Et donc les chiffres, à nouveau, on est à 35% de femmes parmi les conseillères des intercos. C'est-à-dire que deux tiers, en fait, des conseils sont composés d'hommes. Parmi les vice-présidents, on a seulement 20% de vice-présidentes, donc 80% de vice-présidents. Et parmi les présidents, on a 8% seulement de femmes présidentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de 9 intercos sur 10 qui sont présidés par un homme. Et donc, faire cette réforme sur les communes de moins de 1000, indirectement, ça impactera, mécaniquement, ça impactera les intercommunalités. Et donc, nous, on appelle à cette réforme très rapide parce que il faut, par usage républicain, modifier les règles des élections assez longtemps en amont. Oui. Et donc, il y a vraiment besoin que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y ait cette réforme qui se fasse. Il y a un vrai consensus entre toutes les parties prenantes du sujet, que ce soit le Conseil à l'égalité, mais aussi l'Association des maires de France, qui est tout à fait favorable au fait de prévoir ces nouvelles contraintes pour les communes de moins de 1000 habitants. Et donc, voilà, on compte sur les parlementaires pour avancer sur ce sujet rapidement.
Il y a derrière ça une autre problématique encore, c'est que, par exemple, parmi les maires, je crois qu'on est à un taux de représentation du nombre de maires femmes qui est excessivement bas. Je crois que c'est 16% ou quelque chose comme ça.
Effectivement, donc aujourd'hui, il y a 16% des villes qui sont présidées, qui ont à leur tête une femme et 84% un homme. Donc on est quand même très très loin de la parité, ça nous semble être d'un autre temps, et c'est pourtant bien la réalité aujourd'hui. Alors comment ça s'explique ? Ça s'explique parce que c'est le sexisme qui explique tout ça, c'est-à-dire une idéologie de l'infériorité des femmes et tout un ensemble d'actes qui vont viser, en politique en l'occurrence, à exclure les femmes et à capter le pouvoir entre hommes et à le garder entre hommes. Et c'est vrai que la question de la parité, elle est assez parlante sur les résistances à l'égalité, et elle fait un peu tomber l'idée que l'égalité, tout le monde aurait à y gagner. Parce qu'en fait, la parité, c'est-à-dire qu'on est quatre autour de la table, à un moment, il y en a un qui doit partir et qui doit laisser sa place à une femme. Et on ne pourra pas rajouter une chaise en plus. Donc, il y a un moment, il y en a qui doivent renoncer à leur pouvoir pour que des femmes puissent l'occuper. Et donc, c'est sûr que c'est là qu'on a les résistances les plus fortes, parce qu'on est vraiment dans le cœur du réacteur, quoi. Mais l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un principe presque constitutionnel, même si nous, on a aussi des recommandations pour améliorer la place de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution. On trouve qu'il y a encore des marges de progression possibles dans la Constitution, mais malgré tout, c'est un principe fondamentale de notre société et qui doit permettre l'organisation de la société. Et donc, il y a besoin de fixer plus de règles. Et alors, sur les postes de numéro 1, pour revenir à la question des mères, c'est évidemment compliqué parce qu'on ne peut pas imposer le sexe sur un poste. Mais nous, on pense que le fait d'améliorer la place des femmes dans les conseils, de mieux répartir le pouvoir dans les conseils, et de prévoir cette règle du tandem paritaire avec un numéro 1, numéro 2 de sexe différent, ça peut que contribuer à moyen terme à améliorer la place des femmes, même dans les plus hauts postes du pouvoir local, quoi.
Est-ce qu'on n'a pas un peu délaissé justement cet échelon local dont on parle depuis tout à l'heure, au profit de l'échelon national sur lequel on s'est beaucoup concentré pour appuyer, insister sur le fait qu'il fallait notamment de la parité dans la représentation nationale, donc à l'Assemblée, ou de la parité au gouvernement, d'une plus juste répartition des charges ministérielles et des postes à l'Assemblée, qu'on a un petit peu du coup oublié l'échelon local qui est pourtant le premier stade de l'exercice républicain et surtout le plus vaste et celui auquel les citoyens ont le plus souvent affaire finalement.
Je dirais pas qu'il y a d'écart très fort, parce qu'en fait, ce qu'on observe au niveau local, on l'observe au niveau national, c'est assez cohérent, que ce soit dans l'existence de règles, il y en a à tous les échelons, à part les intercommunalités, mais sinon, il y a des règles au niveau des villes, des départements, des régions, il y a des règles au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat. Il n'y a pas de règles au niveau du gouvernement. Il y a une forme d'usage depuis 2012 qui tend à la parité, même si depuis les dernières entrées au gouvernement, le gouvernement n'est plus paritaire et on a 19 hommes et 17 femmes. Nous, d'ailleurs, on invite à inscrire dans la Constitution le fait que le gouvernement doit être composé en nombre égal de femmes et d'hommes. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un écart entre les échelons nationaux et locaux, il y a cette même exigence d'égalité partout et ce même besoin de continuer à progresser, de continuer à fixer des règles pour progresser vraiment vers la parité. En fait, aujourd'hui, dans les collectivités locales, il y a quand même il y a eu des progrès énormes. En fait, maintenant, tous les conseils, que ce soit ceux des communes, des départements ou des régions, sont composés, enfin, à part les communes de moins de 1000 habitants, sont composés à 50%, 50-50 de femmes et d'hommes. Il y a des dispositifs assez innovants qui ont été mis en place. Je pense par exemple au binôme paritaire dans les départements. Donc depuis 2013, les candidatures, ce sont des binômes paritaires, donc un binôme composé d'un homme et d'une femme qui se présentent et qui est élu ou pas élu. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu des fusions de zones géographiques pour présenter sur une zone un petit peu plus grande deux candidats et tous les deux sont élus ou pas élus. Donc ça a permis d'arriver mécaniquement à 50-50 dans les conseils départementaux. Donc dans les collectivités, il y a eu énormément de progrès, mais ça continue à résister sur les postes de numéro 1, numéro 2. Et c'est le cas aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si on regarde, même si on a progressé sur la place des femmes à l'Assemblée nationale, le président du Sénat, c'est un homme. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme. Et la majorité des groupes politiques sont présidés par des hommes. Il y a encore cette captation du pouvoir entre les hommes pour les postes clés. Donc, même si ça s'est resserré sur certains... Enfin, la parité a quand même gagné du terrain. On arrive quand même... il y a toujours cette résistance à l'égalité, là où le pouvoir est le plus concentré, c'est-à-dire dans les exécutifs et sur les postes de numéro 1, numéro 2.
Les municipales, l'année prochaine, c'est un enjeu essentiel, j'imagine. Ce sera un signal fort d'envoyer du point de vue de la parité si, par exemple, sur des grandes villes où, je pense à Bordeaux par exemple, où Alain Juppé ne s'en représentera pas, on le sait depuis peu, sur des grandes villes, des postes de maire sont donnés à des femmes. Est-ce que vous attendez, vous, du côté du HCE, des signaux comme ça, bon, qui ne viendront pas de la loi, évidemment, mais vous attendez, du côté du HCE, de forts résultats, des signaux, des symboles de ces élections ?
Ah oui, chaque élection, effectivement, est l'occasion de progresser vers la parité. On attend des signaux. Mais déjà, nous, on souhaite qu'il y ait des modifications législatives qui soient faites pour contraindre ce progrès. Et ensuite, il y a aussi un enjeu qui est propre aux partis politiques. Et à un moment, c'est la responsabilité des partis politiques. Ils ont cette obligation, d'ailleurs, qui est prévue par la Constitution. La réforme constitutionnelle de 1999 avait bien renforcé leur responsabilité sur le fait de progresser vers la parité. Et donc, voilà, c'est aussi de la responsabilité des partis de faire en sorte qu'ils s'organisent pour que les femmes puissent avoir une place égale à celle des hommes et que, autant de femmes que d'hommes soient investis sur des postes de hiérarchie équivalente. Et effectivement, on espère voir davantage de femmes maires sur des grosses communes, mais aussi sur l'ensemble des communes, parce qu'avec 84% de villes qui ont à leur tête un homme, on peut progresser assez facilement quand même.
Par ailleurs, les enjeux de parité sont également très forts pour tout ce qui concerne les postes les plus importants de l'administration, comme les directeurs d'administration centrale, les ambassadeurs, les préfets, etc., etc. La loi impose que le gouvernement nomme au moins 40% de femmes. Hélas, le journal Le Monde nous apprenait ce 20 février qu'il n'y était pas parvenu et qu'il plafonne à 33%. C'est donc loin d'être réglé, cette affaire. Merci à Claire Guiraud pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.